C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à tous et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle de slow content et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut. Je suis pas le type le plus lent de l'agence, mais
pas du tout.
Mais c'est moi qui m'occupe du slow content.
Non, par contre, on aurait pu faire un épisode spécial loud content. Là, je pense que tu aurais été en première ligne pour en parler.
J'aurais pu en parler. Non, ce matin, ouais, on va parler slow content. On parle beaucoup de snack content avec les réseaux sociaux, avec l'accélération du temps et avec les temps d'attention qui diminuent de plus en plus chez les audiences. Tout le monde est stressé, tout le monde se dit il faut faire du court, de l'efficace, il faut absolument que ça parle à tout le monde tout de suite. Et bah, nous, on va juste ce matin prendre le temps justement de prendre le contre-pied et de dire non, parce que le snack content, juste pour le snack content, ça a peu d'intérêt. Et par contre, une bonne stratégie de mix de MMA, quelque part, hein, de mix entre snack et slow content, là, ça commence à avoir un intérêt.
Et il dit ça en posant sa voix. Eh bah oui, parce que c'est ça dont il s'agit. Hein.
Slow content.
Chaque jour, nous sommes littéralement bombardés de contenu sur les réseaux sociaux, hein, des contenus snack rapidement consommable et puis parfaitement adapté aussi à nos usages de picoreurs volatiles. Mais au cœur de cette guerre à l'attention, eh bien certaines marques choisissent des armes différentes et misent sur les formats longs. La web série, le podcast, les émissions en direct, parfois même le blog, les articles, etc. Et on appelle ça le slow content. Qu'est-ce que c'est exactement cette philosophie autour du slow content?
C'est une vraie philosophie. Hein. C'est dans la veine d'un mouvement qui s'appelle la slow food, qui est né dans les années 80 en Italie et qui voulait s'inscrire contre justement toute la naissante fast food qui arrivait des États-Unis. Et du coup, bah voilà, et les Italiens, ils sont partis dans un autre délire. Ils se sont dit non, à prendre le temps de manger et de faire à manger et de manger bien. La slow food, et bah le slow content, c'est pareil. C'est en fait quelque chose qui est né. L'idée même de slow content est née parce que le fast content, entre parenthèses, le snack content, a pris de plus en plus de place en fait, hein, dans nos manières de communiquer et nous dans nos manières aussi en tant qu'utilisateurs de consommer du contenu. Donc voilà, le slow content est arrivé. L'idée, c'est de produire un contenu qui aura une durée de vie beaucoup plus longue, qui sera souvent un contenu aussi qui met plus de temps à produire, qui est plus fouillé, qui est plus recherché et bah voilà, qui va pas traiter tout de suite là de l'actualité et qui disparaîtra demain, mais qui va continuer sur peut-être plusieurs mois à être utile et intéressant.
Ouais, parce que c'est ça, le slow content, ça a une sorte de valeur patrimoniale, ça construit ma marque durablement, c'est aussi ça qui le différencie du contenu chaud.
Ouais, exactement, on pourrait faire l'analogie entre snack content, slow content et puis contenu chaud, contenu froid. En fait, bah, on définirait chaud tout ce qui est lié à l'actu, hein, qui colle à l'actualité. Les Américains d'ailleurs, ils parlent eux de hot news, donc c'est vraiment des exemples comme les stories, les lives, des petits articles d'actu que tu repartagerais.
Même le format reel, hein,
ouais,
très
voilà,
efficace.
Et encore là-dessus, tu vois, je pourrais mettre des pincettes parce que je pense que tu peux faire du slow content en format Reels, même si effectivement le format se prête plutôt à quelque chose de très consommable rapidement et qui ne fera pas forcément écho dans 3 ou 4 mois.
Oui, parce qu'il y a une opposition entre contenu chaud, effectivement, qui sont liés à l'actu, qui sont vraiment, qui ont une date de péremption, on va dire, assez courte, et puis les contenus froids, qui eux sont aussi ce qu'on appelle des evergreen content. Hein.
Bien sûr, et du coup, en fait, le contenu froid, c'est juste un contenu qui va être plus long, qui va être permanent, et si tu le regardes dans un an, bah, il sera peut-être toujours aussi intéressant, peut-être même plus intéressant que si tu le regardes le jour où ça sort. C'est ça la grosse différence. Pour vous donner un exemple assez simple, c'est comme bah, par exemple, on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, donc c'est pour ça que j'en reparle, de Thinkerview, qui interview des hommes politiques, des sociologues, des gens qui parlent au final de choses liées à l'actualité, mais qu'on parle pendant 2 heures de manière très froide. Dans la consommation que nous on va en avoir, on peut le regarder un an plus tard, cette interview, elle sera toujours ultra intéressante. Par contre, tu peux prendre le même individu, tu le fais réagir en 15 secondes sur Combini à un fait d'actualité, là, ça sera un contenu très chaud que tu reconsommes dans un an qui ne veut plus rien dire.
Ouais, donc pour revenir au sujet snack content versus slow content, hein, on décrypte ce matin quelques marques hein, qu'on a aperçues qui, eux, ont décidé d'aborder leur stratégie social media en mettant une pierre, une pierre angulaire ou plutôt une base fondatrice qui est celle du slow content. Et on va voir que c'est très intéressant, que ça peut servir plusieurs objets. Déjà, je pense qu'on peut... Allez, on va peut-être commencer par ça, excusez-nous, mais on va peut-être parler de nous. On va peut-être parler de ce que on fait chez Super Natif et notamment autour du Super Daily.
Bah, moi, ce que je trouve très intéressant et qu'on va illustrer avec notre exemple, du coup, c'est comment en fait, tu peux hameçonner des gens grâce au snack content et les emmener vers le slow content pour arriver à créer plus de liens avec eux, un lien plus durable, plus fort, parce que souvent, beaucoup plus de fond dans ce que tu vas raconter dans du slow content. Et nous, bah, dans le Super Daily, on a l'exemple dans certains épisodes. Certains épisodes comme le Youpi c'est lundi sont clairement de l'actu chaude et on pourrait presque parler, même si c'est un contenu long, de snack content dans le milieu du podcast. Par contre, le reste de nos épisodes de la semaine sont du contenu froid. On va traiter souvent, même si c'est de l'actualité, avec une vision beaucoup plus globale. Et si tu écoutes l'épisode un an plus tard, il peut toujours être écoutable.
Et puis rien que sur le format, l'épisode du jour, celui qu'on va enregistrer, il va faire, je sais pas, encore 17 minutes. C'est un format évidemment très long, hein, rapporté aux social media. Et là, tu parlais tout à l'heure du fait que le snack content pouvait être un hameçon vers un contenu plus élaboré. C'est tout à fait ce qu'on travaille nous chez Super Natif. Si vous connaissez nos réseaux sociaux @supernatif, et ben vous verrez que partant de ce contenu qui dure 17 minutes, et bien on produit toute une série de micro formats snack qui sont consommables très rapidement et qui ont vocation à ramener du monde vers le format long.
Exactement, le format long, ça va être diffusé en podcast et sur Twitch. On va avoir une captation vidéo d'une demi-heure et un épisode audio d'une quinzaine de minutes. À partir de ça, on va pouvoir construire plein de snack content qui vont venir nourrir nos réseaux sociaux et qui vont nous permettre d'hameçonner de l'audience qui ne nous connaît pas forcément sur le Super Daily et de le ramener vers le format long. Donc on va avoir par exemple une fois par semaine une story récap de la semaine avec tous les épisodes de la semaine avec des petits extraits audio de certains de ces épisodes. On va avoir un carrousel focus sur un sujet particulier qu'on aura traité dans la semaine qui sortira sur Instagram. On va remonter grâce au capta vidéo qu'on fait ici le matin une vidéo 9/16, donc format Reels ou TikTok, montée très rapide avec un extrait juste d'une petite minute, un peu moins, de phrases un peu choc sur un sujet ou alors de l'explication d'un sujet en très peu de temps. Souvent, c'est un peu ce qu'on peut avoir en intro chez nous ou alors en conclusion ici dans le Super Daily. On va avoir aussi un recast, un petit format audio d'une minute qui sort tous les jours sur Facebook, sur Twitter, etc. etc. Voilà, on multiplie les formats snack content. À la base, on a un grand format slow content et nous, on va le transformer pour aller hameçonner du monde.
Et ces stratégies-là, elles marchent. Hein. Le slow content, c'est un réservoir de contenu à quasi sans fin hein, pour produire du snack content avec un autre exemple de marque qui s'appelle Vie et Véranda. Alors, vous connaissez sans doute pas parce que c'est un petit acteur, Vie
parce
et Véranda.
Déjà, faut avoir des vérandas.
Ouais, bah alors moi, j'en ai pas, mais je suis tombé un peu par hasard, je sais pas comment, sur ce contenu produit par Vie et Véranda. Vie et Véranda, c'est quoi ? C'est un fabricant installateur de pergolas. Voilà. En gros, tu sais, les baies vitrées hein, que tu poses chez toi, chez les parties. Et il se trouve que faire poser une véranda, c'est super engageant. En gros, ça nécessite parfois un permis de construire. Ça change l'aspect de ta maison quand même radicalement. Ça ajoute une pièce à la maison. Bref, c'est un projet qui est quand même important dans la vie d'une maison. Et en tant que client, j'ai besoin, vraiment besoin de réassurance. Je veux être sûr que je fais le bon choix. Et tout ça, c'est pas si simple à raconter en format snack content.
Non.
Et du coup, sur YouTube, eh bien, la marque Vie et Véranda met en avant des clients qui racontent leur histoire et leur expérience. Ça a l'air assez basique, mais vraiment, je me suis fait happer par ce contenu. C'est vraiment très bien fait. Je suis épaté. Encore une fois, Vie et Véranda, c'est un tout petit acteur. Je crois qu'ils ont 2500 abonnés sur YouTube. Okay. Mais pour autant, le contenu est vraiment de qualité. Alors, on a par exemple Rose et Christophe qui, après avoir acheté leur maison il y a 17 ans, cherchaient à donner un second souffle à leur maison et tout ça est raconté eh bien, dans une vidéo super léchée d'à peu près 5 minutes dans laquelle on va chez eux, il y a des échanges, on les voit expliquer le projet, pourquoi, qu'est-ce que ça change chez eux, comment ça a changé leur quotidien, quelles questions ils se sont posées avant, etc., etc. C'est bien fait, franchement c'est intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'évidemment ce contenu long qu'on trouve sur YouTube, eh bien, c'est aussi un réservoir de contenu pour le reste des prises de parole de la marque sur ses réseaux sociaux. Et si tu vas sur leur compte Instagram, eh bien, tu retrouves évidemment pas mal de contenu issu de ces vidéos. On parle de screenshots, photos, on parle évidemment d'extraits, etc., etc. Donc, on le voit, c'est un peu la pierre fondatrice derrière d'une prise de parole en relais sur les réseaux sociaux, et je trouve que c'est bien fait.
Eh ben, écoute, un peu dans la même veine, mais moi, ma porte d'entrée dans ces recherches de marques qui font du slow content, c'était d'abord un média marque plutôt que même qu'une marque média. C'était les copains, je voulais leur faire un petit dédicace de Gambetta TV parce que je trouve qu'ils font ça plutôt bien. Dans le même genre que le Super Daily, en fait, ils vont avoir une émission tous les dimanches à 18h sur leur chaîne Twitch. Hein, vous avez le lien dans les notes si vous voulez jeter un coup d'œil. Ils ont quand même 7600 abonnés sur Twitch maintenant, donc ils ont un contenu qui est assez intéressant, qui est très froid. C'est vraiment des thèmes. Alors, Gambetta TV, c'est un média qui parle de rap, hein, donc c'est des thèmes comment...
C'est froid mais chaleureux.
Oui, c'est froid, mais très très chaleureux. Non, c'est sur la news hein, que c'est froid, parce que le sujet des émissions du dimanche, ça va être par exemple le format album, comment il évolue, les albums de Kanye West, tu vois, on n'est pas du tout en train de traiter quelque chose de très actu, et ça va être rediffusé aussi sur leur chaîne YouTube, comme tu disais par exemple pour Vieille Véranda, et par contre, ça va venir nourrir tous leurs social media, donc au milieu déjà de ce contenu froid, ils vont venir glisser des petites capsules de contenu très chaud, pour vraiment pouvoir les exporter et les amener sur leur réseau. Et puis après, ils vont aller chercher des petits extraits vidéo de leurs phrases choc. Ils vont les remonter format vertical, ultra dynamique, rajouter des petits inserts par-dessus. Et ils vont le balancer sur leur Instagram, sur leur TikTok aussi, puisqu'ils viennent de débouler sur TikTok. Donc ça leur permet de nourrir en vidéo Reels plus TikTok, donc les formats qui marchent le mieux en ce moment, à partir d'un contenu très froid et très long qu'ils enregistrent sur la plateforme.
Ouais,
ça, c'est très mal. Hein,
c'est très intéressant quand tu as une marque qui s'est transformée en marque média. Alors là, Gambetta, c'est clairement une.
Média.
Nous, dans le cas du Super Daily, c'est ce qu'on s'applique aussi à faire. On a une marque, on a une agence et on a aussi un média. Et ça, c'est très intéressant parce que ton média a forcément peut s'inscrire dans un temps long et tout ça, tu peux le recycler. Un autre exemple de marque sur lequel je suis tombé, et là, c'est un peu différent, c'est 8-6, tu sais, la marque de bière, qui a toute une stratégie de vidéo format long. Hein. Alors, quand on dit format long aujourd'hui en 2022, bah on va dire que dès que ça dépasse 3-4 minutes, c'est du format long. et alors, bon, déjà pour commencer, le 8-6, hein, la direction artistique de 8-6, leur DA, je trouve, c'est fou, c'est très très bien bossé. On le sait, cette marque elle vient de loin, hein. Elle porte sur ses épaules quand même une réputation pas très glorieuse, et ils arrivent très bien à faire ce switch en ce moment. Hein. Ils ont notamment cet angle autour du principe de meute. On le sait, leur logo c'est un loup, et donc ils ont travaillé toute une thématique autour de la meute, et ils mettent en avant dans ce truc des esprits qui sont libres et créatifs, qui ressemblent aux consommateurs de 8-6, on va dire. Et ça passe notamment par la vidéo sur YouTube. On trouve plusieurs saisons d'un truc qui s'appelle La Meute, et qui est dédié au chef, au cuisinier, et l'émission elle prend la forme d'une sorte de documentaire dans les cuisines des chefs. Alors attention, on parle des chefs tatoués, hein, à la sauce 8-6, qui sont gouailleurs, etc. Un peu Titi Parisien comme Seth Gecko, évidemment, puisque cette émission, elle est présentée par le rappeur Seth Gecko. Et on est sur un format vidéo qui fait à peu près 5 minutes. Et ce contenu-là, donc Seth Gecko qui va dans les cuisines rencontrer un chef, etc., etc.
Très efficace, parce que là, ils vont chercher quelque chose qui est déjà en place sur des médias comme Combini, etc.
Totalement.
Et puis ils prennent, je trouve ça très malin de prendre une personnalité pour venir le personnifier, le présenter. Quoi.
Et c'est vachement bien fait. Évidemment, qui d'autre que Seth Gecko pour devenir l'ambassadeur de 8-6. Il y a du tatouage, il y a de la gouaille. On n'est pas dans la finesse, on va dire. Hein. Et ce contenu-là, idem, on le retrouve en déclinaison social media sur leur compte Instagram, par exemple. On retrouve les vidéos format long, puis aussi pas mal d'extraits, évidemment, pas mal de teasing. Ça vient nourrir la prise de parole de la marque. Ça aussi, c'est très intéressant. C'est quand j'ai un gros bloc comme ça de contenu, je peux investir effectivement du contenu là-dessus, à condition que ce contenu-là, ça devienne aussi un contenu social media. Je suis en capacité de le relayer et de trouver des moyens de le décliner.
Ah, c'est très malin et c'est très bien fait, surtout hein, d'être allé chercher Seth Gecko, je trouve, pour aller animer ce format long après que tu vas diffuser en format court. Et puis tu sais que Seth Gecko, il va t'envoyer des punchlines qui vont super bien fonctionner.
Ça va marcher de ouf. Bon client.
Moi, je vais vous parler de Winamax, qui est peut-être une des marques qui le fait le mieux, hein, tout ça. Winamax, c'est la marque média par excellence. Eux, bah, c'est simple, ils ont très vite compris qu'il leur fallait, du format long. Alors, ils ont du format long qui est très actu chaude, avec des débriefs de matchs. Ils parlent de tennis, ils parlent d'NBA, de foot, de plein de choses. Et puis, ils ont
là,
aussi...
on est vraiment dans du snack pur et dur. Hein.
Ouais, mais
snack
alors, ils l'ont, et ils l'ont. Non, parce que, attention, ils l'ont en format long aussi, ce côté débrief, etc. Okay. Et ils vont après le passer en format court. Aussi des extraits qu'ils vont balancer sur leur réseau. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'ils ont du slow content aussi à côté, qui est du format long. Ils pourraient se contenter de faire que ça, hein, Winamax, ça fonctionnerait. Mais ils vont plus loin parce qu'ils savent que ça ne suffit pas à créer une audience durable et un lien durable avec ces audiences, surtout quand on fait du format long comme ça, mais très actu chaude. Il faut qu'à un moment donné, tu traites des sujets plus profonds. Il faut que tu donnes à manger à tes audiences quelque chose de plus consistant, je dirais. Et du coup, ils sont allés faire des interviews avec des entraîneurs de foot, des joueurs... Des personnalités qui tournent autour du football, beaucoup plus longues, de 40 minutes, des interviews un peu carrière, tu vois, pas des interviews sur l'actu chaude, justement. Et ils vont aller chercher après des extraits de ces interviews-là pour venir les glisser sur leurs réseaux sociaux. C'est des interviews qui font quand même 40 000 vues sur YouTube, je pense, sans même mettre de budget pub, etc. C'est vraiment juste de l'organique. À mon avis, c'est la puissance de la chaîne qui fait le truc. Et là, on voit bien comment ce slow content, il vient nourrir le social media qui est très puissant de Winamax. Sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, ils vont balancer ce contenu. Et même sur TikTok, hein, on retrouve des extraits de ces émissions-là qui viennent nourrir les 36 000 abonnés de la page. Sur Insta, ils en ont 70 000, tu vois. Donc, c'est des communautés qui sont bien en place. Et je pense vraiment que c'est le genre de marque qui a compris qu'il fallait du slow content pour venir créer ce lien durable. En fait, moi, je trouve que quand tu donnes que du snack content et que de l'actu chaude, au bout d'un moment, tu te lasses. Quand tu suis un média ou sur les réseaux qui fait que de balancer des choses très actues, les formats te font un peu rire au début, et puis après, au bout d'un moment, tu te lasses des formats et il n'y a pas de fond derrière. Alors que quand tu as du slow content comme ça qui vient nourrir aussi ton social media, ça amène quand même un peu plus de profondeur aux propos de la marque, et du coup, ça te donne plus envie de rester, quoi.
Oui, oui, je trouve que c'est très intéressant de revenir à cette notion de slow content égale patrimonial. En gros, je rapporte quelque chose qui est quasiment au bilan de mon entreprise.
C'est ça.
Bilan comptable. C'est, en gros, je viens nourrir durablement la marque. Et c'est la grosse différence avec le snack content. J'ai besoin des deux. Le snack content, j'attire l'attention, je maintiens l'attention, je suscite l'engagement. Le slow content, c'est durablement, je construis mon lien et mon positionnement. Et j'ai un exemple chez nous d'un compte qu'on a travaillé pour les copains d'Harry & Co, qui est une marque de légumineuses. Voilà, Cocorico, ils sont lyonnais, c'est Made in France, c'est très bon produit. C'est Yuka compatible, c'est tout ce que vous voulez. Et c'est vegan, c'est super bon produit. Et pour eux, on a produit une web série qui s'appelle Les Harry Culteurs. Ouais. En gros, format assez classique aujourd'hui en marque de food, c'est à la rencontre des.
De la graine à l'assiette.
De la graine
très
à l'assiette, voilà.
Ça.
Donc, on va voir des producteurs de pois chiches, de lentilles, etc.
Légumineuses.
De légumineuses. Et puis derrière, on explique comment eux ils produisent et où est-ce que ça arrive. Combien d'épisodes autour de ça ?
Je crois que c'est 6.
6 épisodes. Là, évidemment, si tu prends le truc exclusivement sur l'angle de la production de ces vidéos, ça a un coût, c'est du temps.
Bien sûr.
Et l'impact en lui-même peut être discutable. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand tu commences à le combiner avec ta strat social media et quand tu te dis, là, les briques de contenu que je produis là, les assets que je produis, je vais pouvoir les utiliser durablement. Je vais pouvoir demain, même un an plus tard, réexporter un bout d'extrait au format reel d'un moment de l'interview. Je vais pouvoir utiliser telle ou telle séquence de mon format long un autre moment dans mon social media. C'est ça quand même qui joue, c'est du patrimoine de contenu. En gros, j'ai ça à disposition ensuite.
Et puis en plus, là, on va créer du contenu tout autour, c'est-à-dire qu'on va faire des photos sur place avec les agriculteurs.
Bien sûr.
Voilà, on va essayer de maximiser ces moments de tournage, de moments de slow content. Justement.
Et je vais même aller plus loin avant que tu passes le dernier exemple. Je trouve que dans ce genre de situation, pour une marque, tu crées aussi un moment de marque. Un temps fort finalement. C'est un temps fort avec ton écosystème, en l'occurrence là, entre la marque et ses agriculteurs. En fait, ce lien qui se tisse là, il vient renforcer globalement ta marque. Donc c'est très intéressant quand même travailler le format long. T'as pas, sur les formats courts, t'as beaucoup moins la possibilité comme ça de renforcer dans la vraie vie le lien qui te lie aux autres, quoi.
Bien sûr, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau du lien, hein, dans ces moments-là. Moi je vais juste vous parler brièvement pour finir de la FNAC qui a un podcast qui s'appelle Infusion. C'est un podcast qui nous fait rentrer dans la tête des artistes et dans leur processus créatif. Donc il y a y a des artistes complètement différents, rappeurs, écrivains, t'as des vidéastes, enfin t'as vraiment plein de choses.
Excuse-moi, je te coupe. Vas-y. Je trouve chelou ce nom, infusion. À chaque fois que je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est bizarre, ouais, infusion, c'est que ça fait un peu mamie, quoi, une petite infusion.
C'est vrai que ça peut faire penser à ça. Je pense qu'ils l'ont imaginé en mode plutôt inspiration, tu tu t'inspires de leur processus créatif. Et c'est quelque chose que tu retrouves sur les plateformes de podcast ou sur YouTube, hein, je vous ai mis un lien dans les notes. Et en fait, on retrouve des extraits de cette émission après, très classique de ce podcast dans les réseaux sociaux de la FNAC. Et là, on voit bien que ça sert un propos différent puisque la FNAC, elle parle beaucoup d'actualité, hein, de la sortie de livres, d'albums de musique, de films, etc. Et là, on est dans un moment, justement, une réflexion un peu plus profonde où on prend le temps de s'éloigner de cette actu chaude et on a un artiste qui, pendant 20 minutes, va nous raconter comment il crée, quels sont ses déclencheurs, etc. Et je trouve que là encore, on est dans une création de lien avec, avec l'audience qu'on construit on est la FNAC, qui est complètement différent. Quoi.
Et puis, moult relais, évidemment, sur les plateformes sociales en format snack avec plein de petits extraits du podcast, etc. etc. et des relais en story, en post, etc. Voilà, les amis, hein, c'est quand même intéressant, ça, de se poser la question, hein, dans un monde qui aujourd'hui est dominé par le snack content, par une consommation en mode popcorn, de ramener une bonne assiette de pasta à la norma faite par la mama qui crée du lien plus durablement du slow content.
Mais c'est ça, moi j'aurais tendance à dire que c'est qu'en fait c'est primordial. Il faut penser à avoir au moins un contenu slow content à l'intérieur de son calendrier édito qu'on vient réutiliser, quoi.
Ouais, et puis en fait, oui, ça prend du temps, mais mine de rien, eh bien, tu gagnes un réservoir de contenu pour faire du snack toute l'année. Donc c'est pas, c'est... réfléchissez à ça. Infusez, comme dirait la FNAC là-dessus ce week-end.
Si vous avez d'autres exemples de marques qui font du slow content qu'on aurait raté, que on serait très friand de voir ce que vous regardez vous en slow content, donc partagez-le nous sur les réseaux sociaux @supernatif sur Facebook, sur Insta, sur LinkedIn, sur Twitter, sur TikTok. Et puis on est partout où vous êtes en gros. Et puis si vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast, n'hésitez pas à nous, à nous laisser un petit commentaire, une petite note, ça nous fait plaisir.
Carrément.
Vous pouvez aussi venir nous voir sur Twitch le matin à 9h. Attention, à partir de la semaine prochaine,
on passe en hebdo, on est en vacances.
En vacances pour 2 semaines, on va passer en hebdo, donc un petit épisode hebdo.
Mercredi.
Mercredi,
mercredi, c'est bien. Voilà. Donc merci à vous tous, on vous embrasse, on vous donne rendez-vous mercredi prochain. Salut tout le monde, ciao, bye.